écoutes
Game Dolls Advance.
Les dolls les plus cool de la région.
Juste après ça.
Oui, oui, bienvenue oui, tout le monde.
Oui,
ah,
oui,
oui,
bonjour, oui.
Troisième édition de Game Dolls Advance. Alors, comme vous l'avez remarqué, qu'on l'a rappelé, on avait peut-être eu un petit souci de VOD lors de l'épisode 2, c'est possible. On s'y reprise à deux fois pour retourner tout le contenu sauf le débat, et tout est dispo sur YouTube. On est désolé, on a
bien. Ça nous a fait en plus. Hein, avec
comment
ça,
bah
ça
oui.
Ah oui, oui.
Mais après, voilà, on est désolé. On a bien coché la case cette fois-ci. Vous inquiétez pas, promis, tout va bien se passer. On est également affilié, comme vous l'avez vu, hein. Ça commence à... vous pouvez vous abonner, lâcher des subs, etc. Vous pouvez bien sûr aussi, comme d'habitude, lâcher aussi des dons sur Ko-fi. D'ailleurs, on remercie aussi les personnes qui nous ont filé des dons, là, la semaine dernière, là. On a eu des bons, d'énormes dons sur Ko-fi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et on remercie aussi Ash, qui a bien grind pour qu'on passe affilié sur Game Dolls Advance. Let's go. Par contre,
oui, bravo.
Mauvaise nouvelle, vous avez remarqué qu'il nous manque une doll. En fait, Rose était bien là, était présente, sauf que suite à un site technique de type
10 secondes de
le PC qui décède, elle ne sera pas là avec nous cette fois-ci. Vous inquiétez pas, elle garde au chaud tout ce qu'elle a prévu pour la prochaine fois, on l'imagine.
Pardon.
Pas de panique.
Mais du coup, nous ne sommes plus 6.
Nous ne sommes plus 6.
Ah non.
Putain. Oh non. La vanne qui va être là à chaque fois.
Ah oui.
À chaque fois.
Même quand on commence là...
Même quand on n'est pas 6, on va réussir à la faire, putain.
Bon, sinon, c'était en toile de fond dans les deux premiers épisodes. Donc, on a essayé de consacrer ce troisième épisode 3 au retour du Gamergate, notamment via le débat. Et on va commencer en douceur avec quelques news.
On commence par qui, les news? Non mais à chaque fois tu te fais avoir.
Tu m'avais dit qu'il y avait un générique sur les news.
Non, il y a pas de générique sur les news.
J'ai redemandé, on m'a dit il y a un jingle pour les news et il y en a pas.
Mais oui, t'es.
Non, il y en a pas. Envie de mourir, moi j'attendais. Bref.
Oui, l'enfant. Voilà. Oui, bonjour. D'accord, il l'enfant. Oui.
Bon, du coup, je vais ouvrir le bal.
N'oublie pas le jingle.
Mais non, elle l'a fait le jingle.
Oui, en plus elle l'a fait, il est juste pas dans le, ah il est juste pas actuellement, oui,
ah
tu as pas encore intégré.
Ah ouais, donc c'est ma faute,
c'est pour ça,
ça
non, c'est pour ça.
Oh non,
c'est
pour
ça que
tu Cron, n'oublie pas d'ajouter le générique des news.
N'oublie pas les news, Cron. Écoute les larmes du peuple.
Allez, on commence, on va pas
oui, on commence. Allez les enfants. Alors, vous l'avez sûrement vu passer, ce mercredi 10 avril, encore un nouveau showcase de jeux vidéo est apparu, et pas n'importe lequel. La Triple I Initiative. Il s'agit d'un événement collaboratif, initialement poussé par Evil Empire, studio bordelais qui gère Dead Cells. Oui, initialement c'était Motion Twin, mais bon, la scope c'est trop limité. Officiellement, c'est parce qu'elle s'est empêchée de dépasser les 10 salariés et donc de faire toujours de plus gros jeux. Officieusement, quand t'es un patron et que tu veux brasser un masse de blé et avoir un contrôle hiérarchique, la scope c'est un peu chiant. Donc voilà, donc maintenant, Evil Empire.
Ça y est, c'est déjà.
Ouais. Motion Twin existe encore. Il y a Motion Twin
oui.
Et c'est Evil Empire.
C'est,
à côté
dire.
Qui,
c'est deux entités différentes, c'est ça. Et fut un temps, Motion Twin avait le contrôle sur Evil Empire. Maintenant, les deux sont vraiment complètement scindés.
Les Nofis, ils commencent déjà à diffamer.
Je ne dis pas.
Qui va déjà nous faire avoir un procès.
N'importe quoi. Ça, c'est moi qui aurai un procès. Voilà. Bref, donc voilà. Donc maintenant, Evil Empire et Motion Twin sont deux entités différentes. Autre petite chose que la journaliste couvrant la news n'a relevé. De toute façon, de le rappeler. De même, Evil Empire est poursuivi pour rupture de période d'essai abusive et discriminatoire basée sur le handicap. On attend encore les sessions de justice depuis janvier, mais ça vous donne déjà un peu la couleur. Bon, revenons sur la triple initiative. C'est l'agglomération de tous les cool kids friqués de l'industrie, développeurs et publishers, mais indés, comme Red Hook, Assemble Entertainment, Kepler Interactive, Megacrit, Tiny Build, etc. Cool Kids qui sont frustrés de ne pas siéger à la même table que les AAA, mais qui sont quand même trop cool pour traîner avec nous les petits indés de merde. Comme le dit le directeur marketing d'Evil Empire lui-même, le but est de mettre en avant des jeux indés vraiment différents qui ont pour unique point commun de raisonner avec des millions de joueurs à travers le monde. Vous noterez l'ironie de la formule, d'autant plus quand le showcase blague lui-même sur la surreprésentation de certains genres de jeux comme les roguelikes en son sein. J'ai aussi personnellement noté la quasi-uniformité des directions artistiques et thèmes proposés, sauf sur le seul jeu du sud global représenté, RKGK Rakugaki. Quel poulet! Alors lui, il m'a bien hypé, j'ai vraiment trop hâte. Alors pourquoi mon petit ton énervé depuis le début? Comprenez qu'ici, en pleine restructuration de l'industrie, ce sont une nouvelle fois des grandes boîtes à l'échelle indé qui se serrent les coudes entre elles et cherchent à s'extraire encore plus du reste de la production, en abandonnant les initiatives déjà connues pour créer la leur dans leur coin. Sur un showcase sans même un formulaire de candidature libre, on est bien sur un petit entre-soi, sur un petit réseau. Et là où avant, un de ces gros jeux indés, dit triple I ici, aurait été l'highlight, le moment fort d'un événement plus modeste, là où il aurait permis de partager son aura avec les autres plus petits jeux présents, maintenant les yeux sont d'autant plus rivés sur ceux qui avaient déjà la lumière avant. Encore une fois, c'est logique de voir un cercle petit bourgeois agir de la sorte, ce sont leurs intérêts de classe à l'œuvre. Je ne tombe pas dénu en découvrant l'initiative, mais je tenais à donner quelques clés de compréhension sur le contexte de ce showcase, puisque qu'aucune journalope n'a eu de grille d'analyse, de grille de lecture autre que celle de la hype.
Petit bourgeois, genre, tout le monde est petit bourgeois, donc de base.
Petit bourgeois dans le sens économique, pas dans le sens culturel, tu vois. Dans le sens économique, pour le coup.
Mais dans le sens économique, tu vois, une petite initiative, ça se discute pour des gens qui font du artiste-auteur selon les formats de scope, etc. Mais bon, sinon, il y a des sociétés avec des patrons, quoi, genre.
Oui, après, petits bourgeois, il y en a des qui sont un peu moins petites d'autres, quoi.
Oui, c'est ça.
On est d'accord.
Mais du coup, ça, on est complètement d'accord que les plus populaires qui font partie de ce truc pour être mis en avant, et du coup, finalement, ça change pas grand-chose, quoi.
Ouais, ça, je suis d'accord.
Bah, finalement, on a bien vu, tu vois, genre, les jeux qui étaient présentés là, c'était après... les jeux des gens qui tenaient l'événement et leurs potes, quoi.
Attends, je fais l'avocate du diable. Est-ce que le fait qu'ils soient tous regroupés dans un événement ou un truc et tout ça, est-ce que ça fait pas qu'il y aura plus de place pour les autres quand on est en dehors de ça?
Ouais, mais personne ne les regardera.
Bah oui, personne ne les regardera, c'est le truc en fait. C'est du coup, c'est devenu l'événement à ne pas louper pour les journalistes, etc. Et qui vont aussi pouvoir. En fait, le truc, c'est aussi que le fait est que du coup, le showcase, de par son existence, fait déjà le tri parmi les jeux à suivre et ceux qui sont un peu moins intéressants, quoi. Ça crée une hiérarchie. En fait, ça recrée de fait la hiérarchie qu'ils eux-mêmes mettent en avant avec le côté triple I. Avec du coup, t'as les triple I qui ont leur showcase et t'as le reste des jeux qui ont leur petit showcase un peu bizarre, etc. Quoi.
Oui, parce que surtout, moi, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a une volonté de distinction, quoi. Où c'est, oui, c'est les grosses boîtes indées qui, finalement, en fait, tu vois, je me posais la question la dernière fois, là, avec. Enfin, pas la dernière fois, la fois d'avant, avec En Garde, mais c'est vrai que. Enfin. La question est, je trouve, est légitime de se poser où est-ce qu'on met la différence vraiment entre un studio standard et un studio indépendant, quoi.
Ah oui, non, mais en plus, c'est cette question-là, tu vois, genre, c'était revenu aussi quand on parlait, c'était pas sur En Garde pour le coup, mais c'était sur sur les Game Awards, quand on parlait de, par exemple, de, tout le monde en avait parlé, c'était Dave the Diver et compagnie, mais même sur des boîtes, typiquement, quand tu prends des boîtes, typiquement, Call Even Empire, ou comme des, et encore pire, comme des gros, tu prends des gros publishers indés, comme Kepler Interactive, Annapurna, etc., est-ce que c'est encore de l'indé, quoi? Pareil pour Devolver, quoi. Mmh. Alors oui, certes, en pratique, c'est quand ça a des budgets inférieurs à ceux qu'on voit dans le triple, etc. Pareil en termes de web marketing et compagnie, mais c'est pas du tout les mêmes productions que les indés.
Donc c'est les indés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc déjà, ça aide à les placer sur le graphe de la définition de indé par rapport à argent, taille de l'équipe, marketing et qui dirige, quoi.
Voilà, la popularité aussi et tout, quoi.
C'est un peu les 4 points que je vois pour le distinguo.
En plus, en vrai, même artistiquement, tu vois, genre j'ai revu le nous dire « Ah, on vous propose des trucs qui ressemblent pas à ce qu'on voit d'habitude. Bah... » Désolé, si t'as regardé autre chose que les triple A depuis quelques années, genre, tu revois les indés. Alors, il y a des trucs qui sont originaux, auxquels je vais jouer, qui ont l'air cool. Il y en a 4-5. Genre, déjà, si tu enlèves les Palworld, tous les DLC de Vampire, tous les DLC références à Castlevania, parce que je crois qu'il n'y en a pas qu'un seul. Enfin, genre, t'as déjà éliminé une grosse partie du show.
Pitié.
Et c'est là aussi, on voit tout le côté copinage, tu vois, parce que t'as ce truc que du coup.
Bah ouais.
Evil Empire a chopé Castlevania sur son jeu, et du coup, les copains, ils mangent aussi, et du coup, aussi, ils ont leur showcase pour montrer aussi qu'eux aussi, ils ont Castlevania. Pareil, du coup, Risk of Rain, ils ont aussi le personnage de Dead Cells. Genre, le réseau, tu le, même si c'est pas initial, tu le vois juste par les collabs, en fait.
Mais aussi,
et puis, en plus, Y a un truc juste pour finir sur mon truc, ça finit par être tellement plus intéressant artistiquement parce que bah ouais, c'est oui voilà, c'est des styles qu'on a c'est des styles qu'on a vu 20 fois, c'est des styles qui sont ultra formatés pour être un truc qui va plaire au grand public. Alors OK, c'est cool, tu vois, genre c'est ce qu'il faut faire, il y en a besoin, c'est de l'indé de qualité, c'est de l'indé qui va marcher facilement quoi. Mais à un moment faut descendre de ses grands cheveux à se dire qu'on fait du qu'on est l'avenir du jeu vidéo, on est les 5 dernières années du jeu vidéo qui sont condensés et qui ont quand même un petit peu de mal à avancer quoi.
Et en plus, il y a des mine de rien, c'est pas si clair que ça au niveau du triple UI, etc., comme tu disais Alice, parce que Vampire Survivors, justement, la seule raison qu'on pourrait avoir pour considérer ça comme un triple UI, c'est que le mec a brassé des millions. Mais à la base, c'est un tout petit budget aussi, à la base, tu vois. Donc c'est vraiment au final juste une histoire de réseautage et de qui est dans les bons papiers, qui a suffisamment de visibilité déjà pour apparaître dans ce genre de conférence, quoi.
Ouais, c'est leur sélection. Bah après, ça, de toute façon, ça a été suivi par les gens à qui la sélection plaît, quoi. Si les gens ils veulent le plus indé, bon, est-ce qu'ils vont vraiment regarder ça ou regarder que ça? Je pense pas non plus, quoi.
Oui, Alice qui défend son bis pour pouvoir un jour y être avec son...
Alice qui veut être triple UI. Hein.
Moi, je l'aime ça, Ville Empire, on vous pardonne tout. Millions, hein.
Ah, j'ai ça, hâte de voir aussi, le prisonnier dans Insurrection. Hein. Bon, allez, est-ce qu'on passait pas à la news de H?
Eh oui, la news de H, en plus, je vais être... Faut que je retrouve des trucs, parce que j'ai un truc à vous montrer, et du coup ça va pas être sexy parce que j'ai pas gardé la page, et je vais devoir voilà, feuilleter un magazine devant vous, parce que on est dans les journaux de Gundam Advance.
Attends, c'est dans quoi?
Dans la presse du JV, dans JV le mag.
Tout est pardonné, je n'ai jamais dit le mot journaliste méchant. Oui, vive les journalistes. Merci à vous.
Voilà,
on a rien
c'est
contre
pas,
les journalistes, ok.
Non, moi je veux le dire
grâce au travail.
TV, mais... C'est news.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. En vrai, genre, c'est quand même un petit feat de commencer dès le premier épisode avec une défense du mot journalope et de finir tout direct au troisième épisode dans le magazine.
Mais parce que les journalistes comprennent.
Si ça marche comme ça, on peut continuer. Les annonceurs, sachez qu'on vous démonte vos putains de darons.
Je pense que les journalistes de Bioche, ils ont un petit côté Humiliation King, quoi.
Bah,
est-ce que c'est pas la meilleure pub,
finalement,
quoi,
les journalistes
final,
et les viewers, ouais, c'est un peu la même chose, ils aiment bien qu'on les insulte.
Bah ouais, ils aiment bien qu'on les domine un petit peu, quoi.
Bah d'ailleurs, les journalistes sont dans le chat, hein.
Oh non. Voilà, après c'était parce que c'était un portrait de moi, j'avais pas vu au départ qu'il y avait deux doubles pages, du coup j'ai pas tout vu qu'il y avait Gundam
Advance. Oh là là.
je fais un petit peu manger des copines, ça me fait plaisir.
Oh, merci.
C'est bon, je retire.
Bon, du coup,
c'est bon, on est calmé.
C'est bon, bah oui, on est calmé.
Non, j'avais une autre news, j'avais autre chose dont il fallait parler. Parce que oui, est-ce que Life is Strange a été fabriqué par des mecs toxiques? Quelle surprise ce serait!
Ou quoi?
Quoi?
Mais il y a une meuf vie dedans.
Et joyeux. Et... Ah, ça a été un combat pour la mettre, hein, pour qu'elle y soit. IGN a enquêté sur Deck Nine, le studio de jeu derrière Life is Strange, Before the Storm et True Colors. Donc Before the Storm, c'était un préquel du premier Life is Strange, et True Colors, c'était une suite ou un spin-off. De toute façon, chaque nouvel épisode de Life is Strange suivait des persos différents. Sauf qu'en fait, Deck Nine, c'est un studio qui est bien plus vieux. C'est un studio qui est créé en 1997, qui a bossé sur du Neopets, qui a aidé sur des Ratchet & Clank, qui a passé 6-7 ans à faire du jeu mobile. Et c'est en 2017 qu'ils ont décidé de se rebrander pour faire du narratif. Donc de base, c'est pas spécialement un havre de paix queer créé pour Life is Strange, etc. C'était des random mecs qui se sont dit qui voulaient faire du narratif et qui ont chopé la licence Life is Strange au moment où Dontnod on avait un petit peu marre et voulait s'en débarrasser. En tout cas, passer à autre chose de leur côté. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'article? On apprend avec grande surprise qu'il y avait énormément de crunch au sein du studio. Et on apprend, alors on voit rapidement, je ne vais pas reprendre tout, mais l'article part de. Alors le premier signalement qu'on a eu, c'est que récemment, dans leur tout dernier jeu, il y a des employés qui ont dû passer des heures à se battre pour enlever un symbole nazi du jeu, caché quelque part, quelqu'un qui avait caché un 8-8 dedans. Super. Voilà, et c'est pas. Il a fallu remonter au management, et le management a fait oh, mais c'est pas grave, enfin, c'est
mais
pas.
Il suffit de remonter là,
on est pas sûr, est-ce que c'est vraiment. Bah ouais, non, mais oui, mais. Mais c'est même. Ah bon, on va pas réagir tout de suite. Et donc voilà, IGN a enquêté, il trouve des histoires. Alors, il les énumère un petit peu. Ils ont trouvé des histoires de harcèlement sexuel, des histoires de bullying, des histoires de transphobie, des histoires de racisme, des histoires de sexisme qui ont systématiquement été reportées au management et qui ont été ignorées par le management. Il y a une phrase assez représentative dans l'article. Chaque femme à laquelle j'ai parlé pendant l'enquête avait une histoire à raconter où elle était directement maltraitée ou harcelée. Ça a particulièrement visé la team narrative. Donc voilà, une entreprise très woke qui vient récolter l'argent. Enfin voilà, une entreprise pas très woke qui vient récolter l'argent des petits gamers qui veulent de la représentation, des gens qui espèrent vraiment, qui ont vraiment de l'espoir dans ces œuvres-là. Donc évidemment. L'enquête s'est focus notamment sur la team narrative, parce que c'était une des équipes les plus diverses, sauf qu'elle était leadée par un mec blanc qui s'appelle Zach Garris, qui est un nom qui va revenir souvent dans l'enquête. Voilà, parce qu'il est horrible, parce qu'il a un comportement peu toxique, parce qu'il bloque plein, parce qu'il a des remarques et des blagues de merde, parce qu'il bloque énormément de décisions aussi. C'était un peu les gens, enfin voilà, il y a des queers qui lui expliquent non, mais je pense qu'il faudrait représenter plus les choses comme ça, ce serait un peu mieux, etc. Mais le mec blanc génie, a la vision et il bloque à peu près tous les trucs sur lesquels sa team se met d'accord. Ça arrive sur une situation où tout le monde veut le voir partir, il finit par être dégagé, et puis, et ça c'est un grand classique, je l'ai vu au moins 4-5 fois dans l'industrie, ce mec se fait finalement dégager, et il revient quelques mois plus tard en consultant. Parce que ouais, il y a une team, on a la petite team un peu diverse, etc., mais on a besoin du génie du mec blanc.
Et vraiment, que ferait la France sans ces entrepreneurs, hein.
Bah ouais. Et du coup, un peu, ça menait à la situation où du coup, il y avait des réunions chez lui en plus, il me semble. C'était ça aussi le
bail. Ouais, il y avait ça entre autres aussi. Ouais, le plaisir. Après, il y a quelques gens qui ont témoigné et qui ont dit je vous ai pas mis la vidéo de Life is Strange Before the Storm. Il y a eu des situations où justement, je sais plus où je voulais en venir. Oui, voilà. Il assurait évidemment à tout le monde que non, mais tout s'était toujours bien passé dans les réunions, etc. Bon, bien sûr.
Oui.
Donc voilà, il y avait besoin du chenille des mecs blancs pour nous guider. C'est une situation qu'on voit vraiment trop trop souvent, et vraiment vous savez pas ce que c'est... ça me rend folle de voir que c'est un truc qui revient partout, ce truc de on finit par dégager le mec blanc qui est à la tête du boys club, et 6 mois après la direction fait ah bah d'ailleurs on avait besoin de quelqu'un sur la prod, on vous l'a ramené, et voilà.
Mais, et du coup j'ai une question, parce que Life is Strange à la base c'est Dontnod, et du coup Deck Nine ils ont travaillé sur ces deux opus là. Est-ce que Dontnod a eu vendu tout ça et a eu une réaction par rapport à tout ça?
Ils ont dit le GOAT.
Alors, j'ai pas vu. Ouais. Rappelons que Dontnod, ils ont été un peu épinglés par le STJV il y a quelques mois. Alors, c'était pas sur le même registre d'accusation, évidemment. Mais voilà, je.
C'est vrai qu'il ferait mieux de fermer peut-être un peu leur gueule.
C'est ça. Dontnod, c'est aussi un studio qui était monté par des mecs blancs qui se sont dit on va faire du narratif diversité en 2015. Ils ont un peu les pionniers sur ça, mais finalement, c'est pas une histoire qui est aussi différente que le reste.
Puis après, t'auras aucune réaction, un genre de studio différent, avec le même publisher, non, t'auras pas de réaction de l'un vers l'autre, quoi.
Bah, par rapport à Life is Strange, quoi, du coup, je me demandais comment ça se passe.
Bah parce que vous, l'IP, en fait, ce que j'ai compris, du coup, l'IP Life is Strange appartient à Square Enix, tu vois. Du coup, du coup, à partir du moment où Dontnod s'en est défait, bah maintenant Dontnod s'en lave les mains et c'est plus eux qui bossent dessus. Quoi.
Ah, ok, oui, donc ils sont plus concernés, quoi.
Non, pas du tout.
Après, ils ont leur propre problème ailleurs, mais là, ça les concerne plus. Ok,
c'est ça. Bon, bah, let's go. Est-ce qu'on passait pas, du coup, à la news d'Emma? Alors, attention l'odeur, parce qu'Emma va nous parler de League of Legends.
Ah là là. Je vois pas de quoi tu veux parler, je suis très propre. Mais effectivement, on va parler de League of Legends. Alors, deux choses. Une news, pas très ouf. C'est-à-dire que Ship Esport nous apprend que Mad Lion Koi, donc Koi, c'est la structure de eBay à la base, le très très gros streamer espagnol, et donc qui a fusionné avec Mad Lions et Movie Star Riders pour donner Mad Lions Koi. Et c'est l'un des plus gros acteurs en termes de ligue féminine sur League of Legends, enfin d'équipe féminine sur League of Legends. Et en fait, ils ont plus ou moins licencié tout leur roster, enfin toute leur équipe, il y a pas si longtemps de ça, il y a quelques jours. Parce que, bah, en fait, on n'a toujours pas de nouvelles d'un circuit compétitif féminin sur League of Legends que nous a promis Riot Games un peu plus de 2 ans, je crois, maintenant. Donc, ça commence à faire un petit moment.
Okay. Oui, mais les femmes, elles peuvent rejoindre des équipes d'hommes. Hein.
Oui, certes, mais du coup, justement...
Ça... Ouais. Non, mais tu fais très bien de dire ça. Ironique, hein, parce que, bon...
Mais ouais. Je sais, mais tu fais très bien de dire ça. Parce que justement, en fait, les Game Changers, c'est, on a déjà ça sur Valorant, et ça sert un petit peu à ça. Ça sert à faire monter des joueuses pro qui, derrière, pourront éventuellement rejoindre des circuits compétitifs mixtes. Donc, c'est là pour encourager la diversité, pour que derrière, il n'y ait plus besoin de ça, en gros. Bon, c'est un peu utopique, hein, mais c'est la volonté qui est derrière. Le truc, c'est que, bah, en fait, depuis 2 ans, on n'a pas eu de nouvelles. Et alors, certes, il y a a priori d'autres raisons qui ont poussé Mad Lions Koi à se séparer de son roster féminin, mais ça augure vraiment pas du bon pour la suite, pour les ligues compétitives féminines qu'on devait voir déjà depuis un petit moment. Parce que s'il y a un gros acteur comme ça qui se retire, c'est que ça pue un peu pour les autres. Et en plus, on se souvient qu'au début de l'année, Riot Games a licencié un gros paquet de monde, et notamment des personnes dans les... Comment dire dans la branche e-sport de League of Legends, ce qui présage pas du bon pour l'arrivée d'une nouvelle ligue en plus, quoi.
Let's go.
Ouais, donc bon, le League of Legends féminin, bon, on attend toujours, quoi. Sinon, ça va pas m'empêcher, comme une conne, de faire la pub pour Riot Games ce soir, puisqu'il y a ce week-end, c'est, disons que pour ceux qui veulent s'intéresser un tout petit peu à l'e-sport de loin, on va dire, c'est un peu le bon moment pour s'y prendre, parce que là on arrive en gros sur demain, il y a 3 gros matchs. Et dans ces 3 gros matchs, c'est une demi-finale et 2 finales. La finale de la Ligue européenne, la finale de la Ligue coréenne et la demi-finale de la Ligue chinoise. En gros, dedans, il y aura plusieurs de ces équipes, la plupart de ces équipes, qui seront présentes au MSI, donc le Mid-Season Invitational, le tournoi, l'un des 2 tournois majeurs internationaux qui commencera début... mais en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est un peu le bon moment pour s'y prendre si vous voulez regarder un petit peu de League of Legends dans l'année, mais pas trop, parce que sinon, on fait ça de sa vie, j'en sais quelque chose.
L'odeur. En...
Voilà. Et voilà. C'est
moi qui
ai dit
récemment que les Worlds, c'était toute l'année, c'était pas genre une saison, j'étais en mode, mais vous,
non, les Worlds...
vous dormez jamais,
ah
quoi.
Oui, en fait,
les Worlds, c'est pas toute l'année.
Non, en fait, il y a des saisons, des splits en fait selon les,
ouais, ouais,
selon
ouais.
les saisons.
En gros, il y a
après le championnat mondial.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a du LOL toute l'année parce qu'il y a en gros une saison de l'hiver printemps, on va dire. Mm-hmm. Le MSI, donc qui est un mini championnat du monde, on va dire. Le segment d'été, puis les championnats du monde. Et là, il y a 2 mois ensuite d'arrêt de fin de la saison et on recommence en janvier du suivant, quoi.
Mais moi j'ai l'impression que ça fait 2 mois de tous les jours, il y a des matchs ultra importants qu'il faut absolument pas rater et du coup vous faites rien et vous sortez pas. Et les
ouais,
gens,
non,
il y a
non,
pas mal de
pas
toute façon de jouer
quoi.
À LOL.
Pareil, le sentiment que j'ai aussi c'est que du coup tous les semaines la casse est paire en fait. Genre,
oui,
c'est
vraiment
excessif quoi.
Oui, alors
après...
bon.
Non, ça va, la cassée a été comment ça, la cassée est éliminée, du coup ça va, elle ne peut pas perdre.
Oui, c'est ça.
J'avais
c'est...
un truc à dire par rapport au début de ta chronique, par rapport à l'e-sport féminin. Et en fait ça m'a fait sourire, mais un sourire jaune quoi, quand tu parlais de rejoindre des équipes, enfin des circuits mixtes,
Oui.
Parce qu'en fait, quasi systématiquement, quand t'as des équipes mixtes d'e-sport, en fait, t'as des merdes qui se passent à l'intérieur, en fait.
Oui, oui, effectivement.
Le nombre d'histoires de meufs qui se retrouvent harcelées, harcelées ou même des fois agressées parce que dans des équipes mixtes d'e-sport, et que aujourd'hui, alors c'est un petit peu revenu là ces derniers temps parce qu'il y a de nouveau de nouvelles structures qui s'engagent vraiment à faire des équipes féminines, mais pendant assez longtemps ça ne se voyait pas parce que les structures en fait avaient à la fois trop peur qu'il y ait des bails, des agressions, des trucs comme ça suite à des cas qui avaient été révélés il y a quelques années. Et que, bah, en plus de ça, en termes de rentabilité, si c'est encore en plus, c'est-à-dire que tu mets de l'argent dedans pour finalement des tournois qui rapportent pas autant que les tournois masculins, et si c'est en plus pour potentiellement avoir des bails d'agression, des trucs sales sur le dos, bah, finalement les structures ne faisaient pas du tout d'équipe féminine.
Oui.
Et du coup, le truc de circuit mixte, ça me...
Oui. Bah, de toute façon, on en est vraiment pas là parce que, alors je veux pas dire de bêtises, je sais plus si c'est sur League of Legends ou Valorant, mais il y a l'une des meilleures joueuses européennes l'année dernière où il y a eu des bails selon lesquels elle avait fait des tryouts, donc des tests dans une équipe parce que de masculine, enfin mixte quoi en gros, mais du coup masculine de fait, parce qu'elle avait le niveau. Et en fait, c'est, je crois que c'est Valorant. Et en fait, c'est a priori les autres joueurs qui ont mis un veto en mode oh, on ne peut pas bosser avec une meuf. Donc bon.
Let's go.
Super.
Bonne ambiance.
Voilà.
Non mais ça me
avant...
ça m'étonne pas. Et alors
avant
en plus,
de continuer, est-ce qu'on
ferait
pas une petite
tout là-dedans
bon. Ouais.
Une petite quoi?
Une petite quoi?
J'allais dire, est-ce qu'avant de continuer, on ferait pas un petit tuto douche? Quand même, vu qu'on est, on a parlé de League of Legends, on est entre Emma et Crown, tu sais. Genre, ça
mais moi, je parlais pas que de LoL là, en fait. C'est pas vrai.
Tu vas parler de quoi,
de l'e-sport en général. Mais,
oui, du coup, okay. Tu vas parler quoi quand c'est l'heure de la news là. De quoi tu vas parler là?
De quoi? Là, maintenant.
Ouais, là, maintenant, ouais.
Ah bah, en termes de news, moi, j'ai rien. Mais après, il y a la chronique, mais
d'accord, j'ai compris, ok, donc on va passer aux chroniques.
Ça veut dire que tu passes aux chroniques.
C'est parti.